RCF.
La maladie fait partie de la vie, petite ou grande. Ces maladies nous rappellent que nous sommes des êtres limités, des hommes et des femmes dont le corps reste fragile et vulnérable. Nous n'aimons pas tomber malade car nous ressentons alors un sentiment d'impuissance, parfois de grande détresse, et presque automatiquement, nous nous interrogeons sur les causes qui ont pu provoquer les symptômes qui nous envahissent. Pourquoi sommes-nous malades ? Est-ce seulement dû à la fatalité ou bien la maladie serait-elle l'expression d'autre chose? Ces questions sont au cœur du dernier livre de Thierry Janssen intitulé « La maladie a-t-elle un sens ?» paru chez Fayard. Thierry Janssen, bonjour.
Bonjour.
Vous avez exercé la chirurgie pendant plusieurs années, puis vous êtes devenu psychologue, psychothérapeute. Qu'est-ce qui vous a fait quitter le bloc opératoire pour le cabinet du psy?
Un mal-être. Un mal-être personnel, mais vous savez, quand vous n'avez pas fait un petit chemin, quand vous n'avez pas fait un petit travail sur vous-même, vous avez tendance à accuser les autres. Donc moi, j'ai accusé mon milieu professionnel, et c'est sûr que dans la médecine, comme nous la pratiquons, il y a des imperfections, et j'avais beau rôle de les pointer du doigt, mais j'oubliais que c'était principalement chez moi qu'il y avait quelque chose à comprendre, à transformer ou à révéler. Et moi, j'ai dû sortir de l'hôpital pour le faire. C'est peut-être pas obligatoire, mais c'était mon chemin et je ne le regrette pas.
Donc vous avez exercé la chirurgie ?
Pendant 11 ans à l'université de Bruxelles, parce que j'avais une ambition démesurée qui était de non seulement enseigner, mais aussi diriger un service hospitalier. Et c'est le jour où j'ai eu tout ça pratiquement à portée de main, le jour où j'ai été nommé à des responsabilités supérieures là au sein de la faculté, que tout d'un coup j'ai réalisé que j'étais pas à ma place et que j'étais en train de mourir à petit feu. Je me suis entendu dire à moi-même, tu vas mourir si ça continue comme ça. Et donc en quelques minutes j'ai pris la décision, c'était un choix, ça ne se justifie pas, je suis sorti et puis je suis parti dans l'inconnu.
Mais vous aimiez la médecine, vous aimez toujours la médecine.
Je l'aime toujours et je trouve que c'est une magnifique façon d'occuper son temps sur Terre que d'essayer de comprendre pourquoi il y a des crises, pourquoi il y a des souffrances et comment y remédier. Mais j'essaye de le faire d'une autre manière, peut-être avec la possibilité de le faire d'une façon plus vaste ou plus élargie, parce que dans l'hyperspécialisation où j'étais, surtout dans un milieu universitaire, j'étais devenu une bonne machine à coudre, mais j'avais plus beaucoup le temps pour penser, pour réfléchir, pour regarder l'être humain dans toutes ses dimensions, et du coup de me présenter face à lui, face à ses malades, dans toutes mes dimensions, pas simplement dans mon expertise professionnelle, mais aussi dans ma sensibilité, ma pensée que je pouvais peut-être témoigner.
Donc c'est la pratique même de la médecine que vous vouliez voir changer, évoluer.
Mais disons que, avec le recul, je me rends compte qu'à l'époque, j'étais sans doute dans ce malaise aussi parce que je ne trouvais pas dans cette façon de pratiquer la médecine la possibilité d'exprimer tout ce qu'il y avait en moi, toutes les dimensions de ce que je suis et de ce que nous sommes tous. Mais ça n'était pas conscient. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que oui, c'est ce qui anime ma vie aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter dans ce monde médical un petit peu de cette humanité qu'il a perdue, un petit peu de cet humanisme dont il s'est éloigné, et de respiritualiser la médecine et la science. Quand j'entends respiritualiser, dans mon propos, c'est aider à comprendre l'esprit des choses. C'est ça pour moi, la spiritualité.
Vous voulez dire que la médecine dite conventionnelle ne s'intéresse qu'à une partie de l'humain, mécaniste?
Oui, inévitablement, vous savez, la médecine comme nous la pratiquons en Occident, la médecine contemporaine, scientifique, est une médecine qui n'est que le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Or, cette société, elle est basée sur un postulat philosophique qui remonte à peu près au siècle des Lumières en Occident, où on a décidé que l'être humain était en dehors de la nature, que la nature était dangereuse et que la fonction de l'être humain était d'utiliser sa merveilleuse intelligence pour mieux comprendre la nature dans tous ses détails afin de la contrôler, de la dominer, de l'influencer. Et partant de ce postulat philosophique, en Occident, nous avons développé une science analytique. Nous essayons de tout comprendre dans le détail, mais malheureusement, à force de le faire, c'est une bonne chose de le faire, ça nous a permis de comprendre et d'agir à différents niveaux. Mais aussi, le côté sombre de cela, c'est que nous ne voyons plus la globalité, nous ne sommes plus capable de comprendre les liens qui relient tous ces éléments de notre analyse. Et en perdant la conscience des liens, je crois que nous perdons la conscience de ce souffle qui traverse le vivant, qui réunit toutes ces dimensions que nous avons compris dans le détail. Et ce souffle, c'est ce spiritus latin, c'est cet esprit. Ça manque singulièrement à toutes nos activités dans nos sociétés contemporaines, occidentales ou occidentalisées. Et ça manque aussi dans la médecine.
Donc ça veut dire qu'on a trop coupé l'homme en tranches?
Oui, on a voulu comprendre ce corps en faisant un objet objectivable. Nous l'avons analysé, testé, quantifié. Et ça nous a permis d'avoir une certaine efficacité sur les processus de la guérison et pour comprendre mieux les processus de la maladie. Mais en même temps, ça nous a éloigné de ce qu'est l'être humain. Et l'être humain, c'est un individu indivisible, c'est-à-dire à la fois ce corps biologique, prédictible, objectivable, mais aussi des émotions qui se manifestent dans ce corps et des émotions qui se traduisent, grâce à notre langage, en représentations qui sont des sentiments. Et on ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces dimensions si on veut vraiment aider l'autre à cheminer, à guérir, parce que guérir n'est pas que ne consiste pas seulement à supprimer un symptôme ou une pathologie, c'est aussi évoluer, grandir à travers l'expérience de ce que nous faisons.
Le fait qu'un certain nombre de contemporains se tournent vers la médecine chinoise ou d'autres médecines non conventionnelles signe le malaise qu'il y a justement avec la médecine dite conventionnelle?
Certainement. Vous savez, il y a des études qui ont montré que dans les pays occidentaux, entre 30 et 70% des gens consomment, entre guillemets, des médecines dites alternatives ou complémentaires. Et parmi ces médecines, il y a effectivement des approches de la médecine traditionnelle chinoise, comme l'acupuncture ou l'Ayurveda, une médecine très ancienne, la plus ancienne des médecines encore vivantes, elle vient de l'Inde, ou alors des méthodes plus naturelles, qui passent toujours par une conscientisation du corps, remettre le corps en mouvement et accepter l'émotion qui s'y manifeste. Et si les gens vont faire ces soins-là et acceptent de payer sans remboursement d'organismes de sécurité sociale ou d'autres prises en charge, c'est que ces gens ils trouvent quelque chose. Et nous devons écouter, nous, en tant que médecins occidentaux, modernes, scientifiques, nous devons écouter ce que ça veut dire. C'est que les gens cherchent autre chose qui manque probablement dans nos pratiques. Et c'est à nous à leur réintroduire pour faire de notre médecine une médecine avec un grand M.
Ce qui ne veut pas dire que vous rejetez la médecine conventionnelle.
Nullement, jamais. Vous savez, je pense que malheureusement, nous vivons encore trop souvent dans un monde qui rejette des choses au profit d'autres choses, un monde d'exclusion et un monde qui cherche des exclusivités. Je ne crois pas que ça soit une bonne manière de penser le monde. Il faudrait au contraire essayer d'être dans un monde d'intégration où on va chercher le meilleur de ce qui est possible dans différentes cultures, dans différentes pensées, différentes approches pour le mettre au service de l'humain et en particulier dans la médecine, différentes thérapeutiques pour les mettre au service de l'humain.
Repère, Béatrice Soltner.
Thierry Janssen, dans votre livre « La maladie a-t-elle un sens ?» paru chez Fayard, vous expliquez que dans beaucoup de cultures et de civilisations, on s'est posé la question du sens de la maladie. Quel sens a ma maladie? Ça veut dire que contrairement à l'animal, nous, humains, nous posons cette question.
Eh oui. Oui, parce que nous, humains, nous faisons une expérience physique à travers nos cinq sens, à travers nos perceptions. Et cette expérience physique va nous amener à réagir physiquement, automatiquement, par réflexe au monde que nous percevons. Mais parce que nous sommes des mammifères, nous avons la possibilité de transformer cette information physique en des émotions. Ces émotions sont des signaux qui nous renseignent si ce que nous avons vécu est bon ou pas bon pour nous et nous aurons des émotions agréables ou désagréables. Mais parce que nous sommes des humains, nous transformons cette émotion en image, en représentation, qui deviennent l'occasion de poser des sons, des mots sur ces images, qui deviennent des sentiments. Et ces sentiments alimentent notre pensée. Et donc, face à toute cette information que nous percevons, si nous ne pouvions pas la structurer, l'organiser, la rendre cohérente, nous serions dans un stress inouï face à l'absurde. Et ce stress serait très délétère, nous ne pourrions probablement pas survivre. Humains, nous avons besoin de nous représenter toutes nos expériences d'une manière concrète et cohérente, et nous avons donc besoin de leur apporter du sens. Ce besoin de sens est inné, il est absolument fondamental pour l'humain. Et donc dans toutes les cultures, depuis la nuit des temps, depuis que l'humain est humain, il y a eu ce besoin de trouver des explications à ce qui pouvait paraître absurde, et du coup d'inventer toutes sortes de cosmogonies, toutes sortes de paradis ou de système philosophique qui permettait de s'apaiser, d'avoir l'impression de dominer la situation et de régénérer de l'émotion plus positive qui nous permet de continuer à vivre, à survivre. Et jamais je ne pourrais dénigrer ce qui s'est fait dans le passé, qu'on ait construit des pyramides ou des temples à telle ou telle divinité, car c'est le besoin de l'humain de trouver ce sens. Alors face à la maladie, qui est un chaos dans l'existence, qui est une période où on perd tous ses repères, toutes ses certitudes s'effondrent, notre impression de toute puissance se révèle être une illusion. Dans ce chaos, nous avons particulièrement besoin d'apporter du sens. Et j'ai vu, quand je séjournais chez les aborigènes ou chez les Douala, auprès de différents peuples dits premiers, que dans ces cultures, puisque nous n'avons pas la possibilité d'expliquer biologiquement, nous n'avons pas de scanner, de microscope pour comprendre les phénomènes, eh bien, il y a d'autres explications qui sont apportées, souvent des explications très symboliques,
par exemple,
mais qui touchent toujours à réinstaurer un équilibre, réinstaurer une harmonie, et ce, non seulement au niveau de l'individu, mais aussi de sa collectivité. Par exemple, je me rappelle d'un jeune homme qui, ça se passe en Thaïlande, dans une tribu qui s'appelle les Thai Noa, enfin à la frontière du Laos et de la Thaïlande, et ce jeune homme avait une tuberculose. Mais il est allé voir le guérisseur de sa tribu, et ce guérisseur ne lui a pas du tout dit qu'il avait une tuberculose, d'ailleurs il n'avait pas les moyens de la diagnostiquer. Il lui a expliqué que son grand-père, qui était décédé, avait commis des vols du temps de son vivant, et que maintenant qu'il était dans l'au-delà, il devait labourer les champs de l'au-delà pour rembourser ses dettes, et qu'il avait besoin d'énergie, et qu'il allait chercher cette énergie dans le foie de ce malade, et que ça expliquait son affaiblissement. Vous me croirez ou pas, mais le simple fait d'entendre cette explication a fait que ce jeune homme s'est senti beaucoup mieux et a retrouvé une énergie tout à fait positive physiologiquement et psychologiquement. Ce qui veut dire que ça peut aider la guérison. Maintenant, quand on a de la tuberculose, il faut aussi avoir la sagesse, je crois, de profiter des acquis de notre culture qui a apporté les antibiotiques.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que la question du sens est importante dans le processus de guérison.
Absolument. Et ce besoin de sens étant tellement fondamental, les psychologues dits évolutionnistes aujourd'hui, c'est-à-dire les psychologues qui s'intéressent à comment l'évolution a façonné nos comportements et nos façons de nous penser, de penser le monde et de réagir psychologiquement à tout ça, eh bien, ils se rendent bien compte, ces psychologues-là, que le besoin de sens, la capacité d'apporter du sens aux expériences de notre existence, permet de générer des émotions dites agréables, comme la joie, l'enthousiasme, l'espoir, et que ces émotions ont un rôle physiologique tout à fait positif sur la préservation de notre santé, car elles permettent de mobiliser de bonnes défenses immunitaires, elles stimulent les mécanismes réparateurs, les mécanismes régénérateurs de notre corps, et quand nous sommes malades, nous en avons besoin non plus pour préserver notre santé, mais cette fois-ci pour récupérer de la santé. Et je crois qu'on a tort dans notre vision occidentale un peu désincarnée dans le sens qu'elle ne s'intéresse qu'au corps en tant qu'objet, de négliger cet aspect-là de la prise en charge thérapeutique, car en ne le faisant pas, nous nous privons d'un ressort qui bien sûr n'est pas commercialisable, qui bien sûr ne se vend pas en boîte et en pilule, mais c'est un ressort qui appartient à l'individu et que le thérapeute, s'il veut être guérisseur, et pas simplement thérapeute, technicien, peut stimuler, inciter à trouver au fond de soi pour accompagner le processus de la guérison. Et il y a fort à parier qu'on consommerait beaucoup moins de remèdes et que notre sécurité sociale aurait peut-être un moins grand déficit. Si nous avions plus recours à ce potentiel interne. Moi, j'appelais ça la solution intérieure. C'était le titre de mon précédent ouvrage pour montrer que il n'y a pas que les solutions extérieures, même si on a parfois besoin de béquilles et de remèdes. Mais de temps en temps, il ne faut pas oublier que nous avons ce potentiel au fond de nous.
Puisqu'on parle du sens des maladies, on entend beaucoup dire, enfin c'est devenu une réflexion même répandue, c'est psy, oh, ça doit être psy.
C'est une des raisons pour lesquelles j'écris le livre, parce que ça devient
caricatural. On dit tout et n'importe quoi là-dessus.
On dit tout et n'importe quoi. Vous savez, peut-être que le manque de sens a créé de l'autre côté en réaction un trop-plein de sens. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est de constater effectivement qu'il y a beaucoup d'approches dites psychologisantes, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à attribuer le moindre symptôme physique à un problème psychologique. Je me suis demandé comment on en est arrivé là. Quand on regarde l'histoire de la médecine dite psychosomatique, une médecine qui a essayé au début du XXe siècle de reconstituer l'individu dans son intégralité et de s'intéresser au lien entre la psyché, les pensées, les émotions, et le soma, ce corps, objet que la médecine avait bien exploré jusque-là. Et cette médecine psychosomatique a apporter beaucoup de compréhension sur le rôle du stress dans la genèse des maladies, etc. Mais il y a eu quelques penseurs de ce courant d'exploration qui ont été jusqu'à affirmer que tout était d'origine psychologique, voire exclusivement psychologique. Et curieusement, c'est rentré dans le non-conscient collectif de beaucoup de gens. Et sans doute parce que face à une médecine qui fait peur, face à une médecine qui ne parle pas beaucoup, qui n'explique pas beaucoup non plus, et qui a des moyens parfois un peu agressifs pour obtenir les effets qu'elle souhaite, eh bien les patients ont envie de trouver une porte de sortie et alors se réfugient auprès de thérapeutes qui leur disent que tout est psychologique et qu'en comprenant l'origine de leurs problèmes, l'origine émotionnelle, ils vont pouvoir se débarrasser de leur maladie, y compris de cancer. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire cela. J'ai essayé de montrer dans ce livre que tout ça ne reposait pas sur des bases solides, que tout ça n'était pas fondé, qu'il ne fallait pas exclure le rôle du psychisme dans la genèse des maladies, mais il fallait voir les maladies comme des phénomènes multifactoriels, des phénomènes où il y a plusieurs causes. Et parmi toutes ces causes, il y a le psychisme, mais il est rarement seul. Et ça serait une grosse erreur de faire croire ça aux gens.
Repère RCF.
Thierry Janssen, vous vous intéressez au sens des maladies, à l'origine des maladies. Vous disiez à l'instant que souvent les causes sont multifactorielles. Vous expliquez ça dans votre livre en prenant le terme anglais de la maladie. Vous dites que dans la langue anglaise, il y a plus de subtilité pour comprendre qu'il y a plusieurs causes.
Oui, disons que c'est plutôt pour comprendre qu'il y a plusieurs sens que l'on peut lui attribuer. Parce que au niveau des causes, vous savez, on comprend bien aujourd'hui qu'il y a des facteurs héréditaires, des chromosomes qui sont plus ou moins bons chez les gens, mais que ces chromosomes dépendent beaucoup aussi de l'environnement et qu'il y a donc des causes alimentaires, des causes toxiques, pollution, souvent invisibles malheureusement, des causes infectieuses, des causes traumatiques et des causes psychologiques. Le stress fragilise les individus, c'est évident. Mais à côté de cet ensemble multifactoriel où nous oublions souvent de comprendre qu'il faut plusieurs facteurs pour qu'une maladie arrive. C'est rarement un seul facteur. Et c'est souvent la conjonction, la synergie de ces différents facteurs qui créent le phénomène de la maladie. Mais à côté de cela, il y a cette question du sens. Et il est vrai que les anglo-saxons ont un vocabulaire souvent très précis qui fait qu'ils sont plus concis pour dire les choses. Et c'est un vocabulaire qui se prête très bien à la science. Et quand ils parlent de la maladie, ils ont trois mots pour la désigner. Le premier, c'est « disease ». Dis easy. Easy, ça veut dire aisance, facile. Et dis easy, c'est la perte d'aisance. Disease, nous le traduisons en français par la pathologie, l'affection. Et
donc,
la science.
C'est la biologie qui est touchée, là.
Et oui, c'est-à-dire que la science essaye de comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'est produit, cette affection, et elle attribue un sens biologique à la maladie. Et elle le fait assez bien. À côté de ça, les anglo-saxons ont un autre mot qui est « illness ». Et « illness », ça traduit le vécu subjectif du malade, c'est son malaise. Et là, il faut reconnaître que notre médecine scientifique n'écoute pas beaucoup les patients, elle ne laisse pas beaucoup de place à l'expression de ce malaise. Donc, elle n'est pas très encline à rechercher ou à aider les gens à trouver le sens symbolique de leur maladie. Ce sens dont nous avons besoin pour retrouver de l'espoir, ce sens qui fait qu'on peut rattacher ses expériences à son passé et que l'on peut aussi se projeter dans le futur parce que le sens donne la direction de notre vie. Et ce sens symbolique est très négligé aujourd'hui. Vous savez, Vaclav Havel avait dit une très belle chose par rapport au sens et à l'espoir. Il avait dit « Avoir l'espoir, ce n'est pas seulement croire que les choses vont se produire bien. Avoir l'espoir, c'est surtout penser que les choses auront un sens. Et on a besoin de ce sens pour générer cet espoir. » Et puis les anglo-saxons ont un troisième mot pour désigner la maladie qui est « sickness ». Et « sickness », c'est la maladie en tant que phénomène vécu dans la communauté, dans la collectivité. Et là non plus, notre médecine scientifique n'attache pas beaucoup d'importance à l'occasion de la maladie d'un seul d'essayer de comprendre comment toute une communauté devrait se remettre en question.
Prenons l'exemple du cancer.
Mais prenons l'exemple du cancer. Le sens biologique, on comprend plus ou moins bien. On arrive à voir les différentes causes, bien que parfois on n'a pas une vision assez globale et on s'attache à une cause en oubliant qu'elle est en synergie avec plein d'autres et que certaines pollutions sont sous-estimées dans cette déstabilisation qui peut mener au cancer. Mais à côté de ça, il y a ce sens symbolique auquel on n'attache pas beaucoup d'importance et les gens en ont besoin et donc vont voir parfois des thérapeutes qui les emmènent dans des aventures où on finit par croire que tout est psychologique et on rattache le malaise émotionnel, les difficultés de vie à l'origine des maladies. Ce n'est pas forcément juste, mais ce n'est pas parce que ce malaise n'est pas à l'origine de la maladie qu'il ne faut pas s'intéresser au malaise pendant que la personne est malade. Parce qu'en le faisant, on permet à la personne de se libérer de beaucoup de difficultés, de beaucoup de poids et émotionnel et de remettre de l'énergie au service de sa guérison. Donc c'est tout à fait bénéfique de le faire. Et puis tout à fait respectueux de l'être humain dans cette crise, de l'accompagner, y compris dans cette réflexion. Mais le cancer, il y a certainement un sens collectif à y apporter également, car c'est une maladie dont beaucoup de causes dépendent de nos comportements et de nos choix de société. Et donc il va falloir tôt ou tard que dans cette fameuse bataille contre le cancer, on arrête simplement de développer des traitements pour être de plus en plus performants dans le fait d'éliminer la maladie, mais surtout d'agir en amont, c'est-à-dire d'empêcher la maladie de survenir. Et ça demandera réellement des changements de vie, des changements de société très profonds. Je ne suis pas sûr que, peut-être moi non plus, nous tous là, nous ne soyons encore prêts à accepter les conséquences de ces changements.
Et pour quelle raison ?
Le confort. Nous sommes dans une civilisation tellement anesthésiée et anesthésiante, dans une civilisation tellement confortable qu'on n'a plus envie de refaire des kilomètres pour trouver de l'eau et de manger que des fruits de la saison et pas pouvoir faire céder le monde au moindre de nos caprices. C'est vrai que nous avons ce sentiment de toute puissance de l'enfant en nous qui croit qu'il peut tout avoir et nous avons développé beaucoup de moyens d'obtenir beaucoup, mais pas tout, mais beaucoup. Et un jour, nous devrons peut-être apprendre à revenir à des choses plus essentielles, plus fondamentales, et nous rendre compte que nous avons peut-être un peu déliré dans ce désir de toute puissance.
Donc pour vous reprendre, Thierry Janssen, il y aurait un sens biologique, un sens symbolique et un sens collectif.
Au moins ces trois sens-là, au moins.
Comment le médecin peut-il s'intéresser à tous ces sens, sachant qu'il a 10 minutes généralement pour rencontrer un patient et que ça va très vite et...
Le médecin a le temps qu'il veut. Je vais vous dire qu'on pratique la médecine comme on le décide. Et le drame, c'est que j'entends beaucoup de soignants qui se plaignent de ne pas avoir de temps, mais c'est à eux à définir quel temps ils veulent consacrer à leur métier ou à la réflexion qu'ils ont par rapport à leur métier. Récemment, j'étais dans une réunion, il y avait beaucoup d'infirmières, beaucoup de médecins, c'était dans une université dans le sud de la France, et il disait, mais enfin, rendez-vous compte, toute l'administration que nous devons faire, nous n'avons pas le temps, et je disais, mais... C'est à nous à définir comment nous pratiquons notre métier. Et si nous estimons que notre métier, c'est d'abord passer du temps avec la malade, d'essayer de les comprendre, de les accompagner dans toute cette richesse qu'est l'être humain, de sa multidimensionnalité, alors c'est à nous à revoir et à dicter nos conditions. Pas nous laisser dicter nos conditions par des gens qui s'occupent d'administration, de budget, et qui ont leur nécessité, mais ils ont parfois des conflits d'intérêts avec ce qu'est réellement la médecine. Et c'est à nous à croire assez aux valeurs de notre médecine pour ne pas abandonner ce qui fait la beauté de ce métier. J'ai presque envie de dire je milite pour ça, mais j'aime pas le mot militaire parce que je ne crois pas qu'il faille faire la guerre, mais j'ai envie d'ouvrir les yeux de mes contemporains sur ce manque qui fait que je n'ai pas envie de tomber malade parfois dans le monde comme nous l'avons créé.
Thierry Janssen, merci. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Fayard, « La maladie a-t-elle un sens ?» Cette émission était mise en onde par Benoît Palandre.